Bon, décortiquons tout ça. Pour commencer notre plongée d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on imagine une situation un peu particulière.
D'accord, je t'écoute.
Prenons l'histoire d'une vie entière. Genre une longue autobiographie super complexe avec plein de nuances, des triomphes, des tragédies silencieuses, bref, toutes les contradictions qui font qu'on est humain, quoi.
Ouais, une vie riche en somme.
Exactement. Mais maintenant, il faut s'imaginer que ce livre, qui est censé être super intime, bah, il n'a pas du tout été écrit par la personne qui a vécu cette vie.
Ah, ça change tout.
Grave. Il a été écrit par un parfait inconnu. Quelqu'un qui restait à l'extérieur de la maison, tu vois, qui regardait à travers la fenêtre et qui prenait des notes juste en se basant sur ce qu'il pouvait apercevoir depuis la rue.
C'est une image assez forte, ça. Et j'imagine que le résultat serait forcément complètement déformé.
Bah oui, inévitablement. Les moments calmes seraient ignorés, parce qu'ils ne sont pas assez spectaculaires à regarder de loin, et les conflits, eux, seraient sans doute exagérés, parce que c'est ce qui attire l'œil quand on est dans la rue, quoi.
C'est clair. C'est une métaphore qui illustre parfaitement ce sentiment de dépossession, en fait. Quand on perd le contrôle de sa propre histoire, on ne perd pas juste des faits, on perd la perspective entière.
Totalement.
Parce que le regard extérieur, même s'il essaye sincèrement d'être objectif, il applique toujours son propre filtre, ses propres préjugés culturels sur ce qu'il est en train d'observer.
Et ce sentiment de frustration, ce truc de voir son histoire racontée par d'autres, c'est très exactement le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui.
C'est un sujet fascinant.
Absolument. Les documents sur lesquels on se penche aujourd'hui mettent en lumière un carrefour vraiment inattendu entre le journalisme indépendant, les technologies de pointe et la revendication d'une identité culturelle.
Oui, on va parler d'un éditorial très précis.
Voilà, un éditorial rédigé par Félicité Amania, Ravincent. Elle est journaliste, éditorialiste et surtout la fondatrice du média Radio Tam Tam Africa. Et franchement, la thèse qu'elle défend est audacieuse.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Elle soutient que l'intelligence artificielle, qu'on voit souvent comme une grosse machine sans âme qui uniformise tout, eh bien, elle peut être utilisée aujourd'hui pour se réapproprier le récit de tout un continent, l'Afrique en l'occurrence.
Ce qui retient vraiment l'attention dans ce texte, c'est que l'approche dépasse de très loin la simple question de, tu sais, la transition numérique d'un média.
Ouais, ce n'est pas juste comment faire un site web.
Exactement. L'éditorialiste pose un diagnostic très ferme sur l'état de l'information mondiale aujourd'hui. Elle affirme que le 21e siècle sera défini par ce qu'elle appelle la bataille des récits.
La bataille des récits. J'adore cette expression.
Et comprendre cette notion de bataille, c'est vraiment essentiel pour saisir les enjeux de la restructuration actuelle des médias, si on relie ça à la situation globale, quoi.
Bah justement, j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur cette expression. Parce que, historiquement, on a souvent tendance à penser que le journalisme, c'est juste rapporter des faits.
C'est la vision classique, oui. L'objectivité absolue.
Voilà, un événement se produit, un journaliste le décrit et l'info circule. Genre, si une grande agence de presse internationale couvre une élection à Dakar ou un sommet à Kigali, les faits restent les faits, non? En quoi est-ce que c'est une bataille?
Alors, un fait brut et neutre, c'est vrai. Une date, un chiffre, c'est neutre. Mais la sélection de ce fait, la manière dont on le contextualise et l'angle sous lequel on le présente, ça, ce n'est jamais neutre.
Ah, le fameux angle éditorial.
Exactement. L'éditorial souligne que, pendant des décennies, l'Afrique a été racontée presque exclusivement par des agences de presse étrangères. C'est ce qu'on appelle souvent dans le milieu le journalisme de parachute.
Le journalisme de parachute, c'est-à-dire ?
Bah, ce sont des envoyés spéciaux qui atterrissent quelque part juste pour couvrir une crise. Une élection sous tension, une famine, un conflit armé, et puis hop, ils repartent.
Ils ne restent pas pour voir le reste, quoi.
Voilà. Et l'auteur explique que cette accumulation de récits qui sont focalisés sur des prismes très, très spécifiques, ça agit comme un filtre déformant au niveau mondial.
Un filtre qui occulte complètement le quotidien, en somme, et les réussites aussi.
Pas seulement le quotidien, mais toute la complexité d'une société. En ne racontant systématiquement qu'une seule version de l'histoire, on masque les innovations, les dynamiques culturelles, les ambitions locales, enfin, tout ce qui fait vivre le continent, tu vois.
Ouais, je vois tout à fait. Et l'auteur avance que cette expropriation narrative, ce n'est pas qu'un problème d'ego ou de fierté blessée, si j'ai bien compris.
Ah non, pas du tout. Ça a des conséquences systémiques hyper concrètes. Selon le texte, celui qui maîtrise la narration d'une région influence directement la façon dont le reste du monde perçoit cette région.
C'est logique.
Mais ça influence aussi la façon dont les habitants eux-mêmes se perçoivent.
Ah oui, c'est insidieux. Donc, par exemple, si le récit dominant ne met en avant que l'instabilité politique ou la pauvreté, bah, les investisseurs internationaux vont fuir les pôles technologiques émergents juste parce que le risque perçu est trop élevé.
C'est exactement ça. Ça devient une prophétie autoréalisatrice. La narration finit par construire la réalité économique.
C'est fou quand on y pense. Raconter une histoire, ce n'est vraiment pas qu'une question de poésie. C'est de la pure stratégie géopolitique.
C'est l'argument central de son diagnostic. La dépossession du récit limite littéralement le développement. C'est pour ça que la fondatrice de Radio Tam Tam Africa insiste autant sur l'urgence de reprendre la plume, en fait.
Sauf que face à cette urgence, le défi logistique est juste colossal. Je veux dire, comment un média indépendant peut-il espérer rivaliser avec l'infrastructure, les budgets immenses et la portée des conglomérats médiatiques traditionnels ?
Ce qui domine l'espace de l'information depuis un siècle, oui, c'est le pot de terre contre le pot de fer.
Et c'est là, précisément là, que la proposition du média prend à contre-pied la pensée dominante. L'éditorial propose d'utiliser le numérique, et plus spécifiquement, l'intelligence artificielle, pour mener cette bataille.
C'est le cœur de sa stratégie, oui.
Mais je dois avouer que lorsque j'ai lu cette partie de nos sources en préparant cette exploration, j'ai eu un énorme blocage.
Ah bon ? Quel genre de blocage ?
Un blocage lié à la nature même de l'intelligence artificielle, en fait. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On sait très bien que les grands modèles de langage, les IA génératives que tout le monde utilise aujourd'hui, ils sont entraînés massivement sur des bases de données occidentales.
Oui, c'est un fait établi. Les données proviennent majoritairement du Nord global.
Voilà, ces modèles ont ingurgité des décennies d'articles, de livres et, par extension, de biais cognitifs occidentaux. Donc, si l'objectif du média, c'est de s'affranchir du regard extérieur occidental...
Tu te dis que c'est contradictoire.
Totalement. Utiliser une machine qui a été littéralement construite par et sur ce regard extérieur, ça semble illogique. N'est-ce pas prendre le risque énorme d'automatiser les biais mêmes qu'on cherche à combattre ?
C'est une objection super pertinente. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cœur du débat éthique sur l'IA en ce moment. Mais l'auteur de l'éditorial apporte une distinction cruciale sur sa méthode de travail.
Ah d'accord. Laquelle ?
Le texte précise très clairement que l'outil technologique n'est pas utilisé pour remplacer le cœur du métier journalistique. L'IA ne va pas sur le terrain, quoi.
Elle n'écrit pas les articles.
Non, elle n'interviewe pas les acteurs locaux à Kinshasa ou à Abidjan. Et surtout, elle ne décide jamais de l'angle éditorial. Le regard humain, la vérification des faits, ça reste au centre.
Alors concrètement, comment il utilise cette IA, si ce n'est pas pour écrire le récit lui-même ?
Eh bien, c'est utilisé comme un levier d'ingénierie algorithmique. Pour comprendre ça, il faut regarder comment l'information circule sur Internet aujourd'hui.
C'est-à-dire ?
C'est surtout parce qu'ils ont des armées entières d'ingénieurs dédiés au SEO, l'optimisation pour les moteurs de recherche.
Ah, le fameux SEO, le nerf de la guerre.
Exactement. Ils savent comment structurer les métadonnées, comment formater les balises techniques, et ils savent intégrer les mots-clés exacts pour que l'algorithme de Google place leur article tout en haut des résultats.
D'accord. Je vois le truc. C'est ce qui fait que, par exemple, si je tape « Actualité économique en Afrique de l'Ouest » sur mon téléphone, je vais très souvent tomber sur un média économique européen avant même de trouver un article de la presse locale africaine.
Précisément, le système favorise ce qu'on appelle l'autorité de domaine technique, et c'est exactement ce déséquilibre technique que l'éditorial propose de corriger grâce à l'IA.
Mais c'est brillant, en fait.
Oui, parce que pour un média indépendant qui n'a pas cette armée d'ingénieurs, l'intelligence artificielle permet d'automatiser ce travail de l'ombre qui est extrêmement chronophage.
Donc, si je résume le processus, le journaliste humain fait son vrai travail de journaliste sur le terrain. Il écrit son article avec sa perspective locale et authentique.
Ouais, tout à fait.
Et ensuite, l'IA analyse ce texte humain, génère instantanément les métadonnées les plus performantes pour le SEO, adapte le format pour les réseaux sociaux et s'assure que l'algorithme va aimer le contenu.
C'est exactement la mécanique décrite. C'est de l'optimisation de distribution. L'IA aide à faire porter la voix africaine beaucoup plus largement.
Je comprends beaucoup mieux. Si on devait utiliser une image, c'est comme le fonctionnement d'un mégaphone géant.
Un mégaphone, oui, c'est une bonne analogie.
Je veux dire, il fut un temps où... pour que ta voix porte à travers le monde, il fallait posséder d'immenses infrastructures physiques. Des antennes relais colossales, des imprimeries internationales, un réseau de distribution énorme.
Ce que seuls les grands conglomérats possédaient.
Voilà. Mais aujourd'hui, l'infrastructure, bah, c'est l'algorithme. Et l'IA sert de mégaphone de haute technologie pour, d'une certaine façon, pirater ce système de distribution.
Ce qui est fascinant ici, c'est que l'analogie du mégaphone montre bien qui garde le contrôle.
Exactement. Le mégaphone ne dicte jamais le discours. C'est toujours le journaliste local, un humain, qui choisit minutieusement les mots qu'on écrit. L'outil technologique ne fait que donner à cette voix locale la puissance en décibels pour concurrencer les géomédiatiques.
C'est le principe même du piratage constructif, oui. Et l'éditorialiste félicité Amané Rhin-Vincent l'affirme noir sur blanc, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais le discernement, l'expérience humaine ou la responsabilité éthique.
Ça me rassure pas mal par rapport à mon blocage initial, du coup.
Oui, l'outil numérique reste strictement subordonné à l'intention éditoriale. Et c'est comme ça qu'il neutralise le risque de biais automatisé dont on parlait. L'IA n'est pas l'auteur, elle est juste le distributeur survitaminé.
Bon, mais cette approche très technique, ça soulève une autre question majeure qui est abordée dans nos documents.
Laquelle ?
Admettons que ce mégaphone algorithmique fonctionne parfaitement. Les histoires locales parviennent enfin à percer le bruit ambiant d'Internet. Quel est le message exact qui est poussé dans ce mégaphone ? Parce que l'éditorial ne cherche pas seulement à corriger la vision que l'Occident a de l'Afrique.
Non, en effet. Le texte indique très clairement que la cible prioritaire de cette réappropriation narrative, elle est avant tout interne.
Interne.
Genre, c'est pour les Africains eux-mêmes ?
Absolument. L'argumentaire cible de manière explicite les jeunes générations africaines et la diaspora. L'auteur évoque vraiment le besoin fondamental pour ces populations de se reconnaître dans des récits qui leur ressemblent.
C'est super intéressant. Mais pourquoi cette focalisation sur la jeunesse et la diaspora, plutôt que d'essayer de, je sais pas, d'influencer le soft power international ou les gouvernements étrangers ? Parce qu'il s'agit de psychologie sociale, tout simplement. C'est de la construction identitaire de base.
Ah, tu veux dire par rapport à l'impact des images sur l'ambition future ?
Exactement. Si les médias que consomment quotidiennement les jeunes Africains ne dépeignent leur continent qu'à travers le prisme de la vulnérabilité, du manque ou de l'assistance, bah ça crée un énorme plafond de verre psychologique.
Ouais, c'est dur de rêver grand quand on te dit tous les jours que tu viens d'un endroit cassé.
Voilà. Comment tu peux te projeter comme un innovateur ou comme un entrepreneur d'envergure mondiale si tout ton environnement informationnel te suggère que ce n'est pas possible là où tu vis ?
C'est impossible, ouais. Ou alors tu te dis qu'il faut forcément partir pour réussir.
C'est ça. Et l'éditorial affirme justement cette volonté de faire émerger, grâce à cette distribution algorithmique optimisée, l'image d'une région qui pense, qui crée et qui décide par elle-même.
Et ce point-là, c'est crucial. Parce que ça marque un changement de paradigme complet sur la définition même de ce qu'est la richesse.
Ah oui, le passage sur les ressources.
Oui. Il y a un passage dans l'éditorial qui s'attaque frontalement à l'un des clichés les plus tenaces de l'histoire moderne. L'idée que la richesse de l'Afrique, elle résiderait exclusivement dans son sous-sol.
C'est le vieux regard extérieur par excellence.
Totalement. Historiquement, le monde a toujours regardé ce continent sous l'angle de l'extractivisme. Genre c'est juste un immense réservoir de minerais, d'hydrocarbures, de métaux précieux et de matières premières agricoles.
C'est effectivement le récit colonial et postcolonial typique. En gros, la terre a une valeur inestimable, mais le capital intellectuel des gens qui vivent dessus, bah, beaucoup moins.
C'est terrible quand on le formule comme ça.
C'est terrible, mais c'est le récit dominant. Et l'éditorial déconstruit cette idée. L'auteur soutient avec force que la véritable richesse de l'Afrique aujourd'hui, elle réside dans sa capacité à produire des idées, à transmettre des connaissances, à innover.
Alors ça, c'est un pivot radical. On passe carrément de l'exploitation des ressources du sol à la valorisation des ressources de l'esprit.
C'est une révolution narrative, oui.
Et c'est là que le lien avec la diaspora, qui est mentionné dans le texte, prend tout son sens, n'est-ce pas, Eve ? Parce que la diaspora, c'est le prolongement de cet esprit à l'international.
Oh, tu sais ce terme un peu fataliste ?
Ouais, comme une perte sèche pour le continent.
Voilà. Au contraire, elle est décrite comme une force économique et intellectuelle vitale, qui opère à l'échelle mondiale, mais qui reste connectée.
Et le média joue un rôle là-dedans.
L'enjeu stratégique pour un média comme Radio Tam Tam Africa, en optimisant sa présence numérique avec l'IA, c'est d'agir comme un pont technologique. Et l'idée, c'est de maintenir un lien ininterrompu entre les transformations réelles sur le continent et cette diaspora.
Ah, je vois.
Comme ça, les membres de la diaspora n'ont plus besoin de dépendre des dépêches d'agences de presse étrangères pour savoir ce qui se passe chez eux.
Exactement.
Et ça leur permet aussi d'identifier de vraies opportunités d'innovation ou d'investissement.
Bon, je vois bien l'architecture globale du projet maintenant. On a le diagnostic, une expropriation narrative historique par le regard extérieur. On a la solution technique, utiliser l'intelligence artificielle, mais juste pour optimiser la distribution algorithmique de l'information.
Oui, le fameux mégaphone.
Et on a l'objectif final, redéfinir la valeur autour de l'innovation humaine pour reconnecter les générations et la diaspora. C'est super cohérent.
C'est une vision très complète.
Mais soyons un peu critiques un instant, si tu veux bien.
Vas-y, je t'en prie.
On vit dans un monde médiatique qui est complètement frappé par ce qu'on appelle souvent l'infobésité. Tu sais, cette surabondance permanente d'informations.
Oui, des millions de contenus générés et publiés chaque minute.
Exactement. Dans un tel environnement, est-ce qu'une approche qui est aussi fortement orientée sur le SEO, les mots-clés et la satisfaction de l'algorithme, ça ne risque pas de dénaturer le journalisme lui-même à terme ?
C'est un risque énorme, oui.
Je veux dire, ne risque-t-on pas de perdre l'âme du métier en cherchant absolument à plaire à la machine, juste pour être visible ?
Eh bien, l'éditorialiste semble parfaitement consciente de cette tension. Cela soulève une question importante, et c'est d'ailleurs ce qui motive la conclusion très philosophique de son texte.
Comment ça ?
Dans l'industrie actuelle de la presse, on observe une fascination presque aveugle pour la technologie. Beaucoup déploient l'IA simplement pour produire plus de clics, plus vite, et au détriment de la qualité. Ils font de l'outil une fin en soi.
Oui, la course rendement algorithmique.
Mais la thèse de l'auteur, ici en revanche, subordonne très strictement la machine à une éthique forte. Elle rappelle constamment que l'intelligence artificielle n'est pas une finalité, c'est un simple outil.
La technologie reste à sa place.
Exactement. Et la finalité énoncée par le média, c'est la recherche de la vérité, le service des communautés et la construction d'un récit d'appartenance. Le but n'est pas de faire du contenu générique en masse, mais de s'assurer que le contenu authentique ne soit pas étouffé.
D'où le slogan du média qui est cité à la fin de l'éditorial, j'imagine. Radio Tam Tam Africa, la parole est une force.
C'est ça. C'est l'essence même de leur mission.
La parole, c'est-à-dire l'intention humaine. L'outil numérique ne fait que lui donner l'élan pour traverser les frontières. C'est vraiment une distinction fondamentale qui nous oblige à repenser notre vision de la tech.
Oui, ça change la perspective.
Très souvent, et moi le premier, on accuse les algorithmes de niveler la pensée par le bas, de noyer les voix divergentes sous un océan de contenu standardisé.
C'est le risque d'une technologie laissée sans boussole éditoriale.
Mais ce que démontrent nos sources d'aujourd'hui, c'est que l'architecture technologique du web n'est pas une fatalité. Les règles du jeu SEO ont longtemps favorisé les structures dominantes par défaut. Mais en s'emparant de ces mêmes outils, un média indépendant transforme ce qui était un mur infranchissable en un levier d'émancipation.
C'est exactement ce qu'il faut retenir de cette analyse. Face à l'infobésité, la réponse n'est pas de fuir la technologie, mais d'en avoir une maîtrise tactique.
La bataille pour maîtriser son propre récit ne se gagne pas en refusant les règles de l'arène numérique, en fait. Elle se gagne en utilisant les armes de cette arène mieux que quiconque.
Tout en conservant, bien sûr, cette authenticité humaine intouchable sur le terrain. L'automatisation fait le sale boulot de distribution et le journaliste a le temps de faire son vrai métier, enquêter, comprendre, raconter.
C'est un équilibre délicat, mais selon cet éditorial, c'est la seule voie viable pour instaurer une véritable souveraineté narrative au XXIe siècle.
Ça prouve en tout cas que technologie de pointe et intégrité journalistique peuvent marcher main dans la main.
Absolument. Et tu sais, cette dynamique, ça soulève une réflexion finale fascinante, bien au-delà du continent africain.
Je t'écoute.
Si on y réfléchit deux secondes, si l'intégration stratégique de l'IA et l'optimisation des algorithmes peuvent servir de levier pour réapproprier le récit de tout un continent et contrer des décennies de biais médiatiques.
Oui.
Eh bien, quelles autres voix historiquement marginalisées pourraient faire de même ? Je veux dire, quelles autres cultures ou quelles histoires complètement oubliées par les récits officiels pourraient utiliser ces exacts mêmes outils numériques pour contourner les gardiens traditionnels de l'information ?
Pour imposer leur propre vérité, tu veux dire ?
Voilà, pour réécrire de leurs propres mains leur place légitime sur la scène mondiale. C'est une perspective immense sur le pouvoir de la technologie, quand elle est enfin mise entre les mains de ceux qui refusent que leur vie soit écrite par un inconnu regardant par la fenêtre. Une vraie question à garder en tête pour notre auditoire.
C'est clair, ça donne matière à réfléchir sur l'avenir de l'information.
Tout à fait. Merci pour cet échange, c'était vraiment passionnant de décortiquer tout ça.
Avec plaisir, c'était une superbe exploration.